9. Le chemin qui menait à la route et au cottage faisait moins d'un kilomètre. Je m'arrêtais deux fois. Une première fois pour me retourner vers le trou dans la colline, qui ressemblait à l'entrée d'une petite caverne en partie masquée par le rideau de lierre, et une deuxième fois pour regarder mon portable. Je m'attendais à voir la mention « pas de réseau », mais même pas. Mon iPhone refusait carrément de s'allumer. Ici, il n'était qu'un rectangle de verre noir tout juste bon à servir de presse-papier. Je ne me souviens pas d'avoir été désorienté ou stupéfait, même en découvrant ces flèches de verre à l'horizon. Je ne doutais pas de mes sens. Je voyais le ciel gris au-dessus de ma tête, un plafond bas qui suggérait l'arrivée de la pluie. J'entendais le bruissement de la végétation contre les jambes de mon pantalon sur l'étroit chemin. Alors que je descendais de la colline, la plupart des constructions de la ville disparurent. Je ne voyais plus que les trois plus hautes tours. J'essayais d'évaluer à quelle distance elles se trouvaient. 50 kilomètres? Plus? Mais le plus envoûtant, c'était l'odeur des coquelicots, un mélange de chocolat, de vanille et de cerise. Hormis le parfum des cheveux de ma mère dans lesquels j'enfouissais mon visage quand j'étais enfant, c'était la chose la plus délicieuse que j'avais jamais offerte à mon odorat. Sans conteste. J'espérais qu'il ne pleuvrait pas, non par crainte d'être mouillé, mais parce que je savais que la pluie exalterait cette odeur dont la beauté risquait de me tuer. J'exagère, mais pas autant que vous le pensez. Je ne vis aucun lapin, grand ou petit, mais je les entendais gambader dans l'herbe et les fleurs, et l'espace de quelques secondes, je crus apercevoir deux grandes oreilles. J'entendais également les stridulations des criquets, et me demandais s'ils étaient démesurés, eux aussi, comme les cafards et les chauves-souris. À l'approche du cottage, murs en bois, toit de chaume, je m'arrêtais, stupéfait. Sur les cordes à linge qui s'entrecroisaient derrière la maison et de chaque côté étaient suspendues des chaussures. En bois, en toile, des sandales, des pantoufles. Une corde ployait sous le poids d'une botte en daim ornée de boucles en argent. Une botte de 7 lieues, comme dans les vieux contes? Ça y ressemblait en tout cas. Je m'en approchais pour la toucher. Elle était molle comme du beurre et douce comme du satin. « Faites pour arpenter la route, songeai-je. Faites pour le chat beauté. Où est l'autre ?» À croire que cette pensée l'avait fait venir, car la porte de derrière du cottage s'ouvrit et une femme en sortit en tenant la deuxième botte. Les boucles scintillaient dans la douce lumière de cette journée de ciel blanc. Je savais que c'était une femme, car elle portait une robe rose et des chaussures rouges, et parce qu'une poitrine généreuse débordait de son décolleté, mais sa peau avait la couleur de l'ardoise, et son visage était cruellement déformé. Comme si ses traits avaient été dessinés au fusain, puis à moitié effacés par la main d'une divinité colérique. Ses yeux étaient deux fentes, à l'instar de ses narines. Sa bouche, un croissant de lune dépourvu de lèvres. Elle s'adressait à moi, mais je ne comprenais pas ce qu'elle disait. J'en déduisis que ses cordes vocales étaient aussi estompées que son visage. En revanche, le croissant de lune sans lèvres dessinait un sourire, sans le moindre doute, et j'avais le sentiment, appelez ça une vibration, si vous voulez, que je n'avais rien à craindre d'elle.
« It's out. Adze ?»
Elle toucha la botte suspendue sur la corde à linge.
« Oui, très jolie, » dis-je. « Vous me comprenez ?»
Elle hocha la tête et fit un geste que je connaissais bien, un cercle formé par le pouce et l'index qui voulait dire « impec », quasiment dans le monde entier. Sauf dans certains cas rarissimes où des imbéciles l'utilisaient pour dire « pouvoir au blanc ». Elle émit encore quelques « ids et ouds » et montra mes tennis.
Quoi ?
Elle décrocha la botte qui était maintenue par deux pinces à linge en bois à l'ancienne, sans ressort. Tenant les bottes d'une main, elle montra mes tennis de l'autre, puis les bottes. Me proposait-elle un échange ?
C'est tentant, mais je crains que ça ne soit pas ma pointure.
Elle haussa les épaules et raccrocha les bottes. D'autres chaussures, parmi lesquelles une pantoufle en satin vert recourbée au bout comme en porterait un calife, se balançaient et tournoyaient dans la brise hésitante. Regarder ce visage flou me donnait un peu la nausée. J'essayais de me représenter ses traits tels qu'ils avaient pu être, et j'y parvenais presque. Elle s'approcha de moi et renifla mon t-shirt avec la fente de son nez. Puis elle leva ses mains à la hauteur de ses épaules et gratta le vide.
Je ne pige pas.
Elle sautilla et émit un son qui, ajouté à la façon dont elle m'avait reniflé, clarifiait le message.
Vous parlez de radar ?
Elle hocha la tête, faisant virevolter ses cheveux châtains clairsemés. Elle produisit un
« Woods, Woods, Woods !»
Sans doute sa manière d'imiter les aboiements.
« Elle est chez moi !»
Elle posa sa main sur son cœur.
« Si vous voulez dire que vous l'aimez, moi aussi !»« Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?»
La femme aux chaussures leva les yeux vers le ciel. Elle semblait calculer. Finalement, elle haussa les épaules.
« Loin !»« Loin ? Ça doit vouloir dire longtemps, parce qu'elle est vieille maintenant. » Elle ne sautille plus beaucoup. Et, Monsieur Bodich, vous l'avez connu puisque vous connaissez Radar.
Elle hocha la tête avec la même vigueur et ce qui restait de sa bouche dessina un autre sourire. Elle n'avait plus que quelques dents, mais celles que je voyais formaient des taches blanches éclatantes sur sa peau grise.
Ariane.
Adrienne. Adrienne Bodich. Elle hocha la tête de nouveau à se faire un torticolis.
Mais vous ne savez pas quand il est venu ici pour la dernière fois ?
Elle regarda le ciel encore une fois et secoua la tête.
Radar était jeune ?
Oui.
C'était un chiot ?
Nouveau hochement de tête. Elle me prit le bras et m'entraîna derrière la maison. Je dus baisser la tête pour ne pas être garrotté par une corde à linge lestée de chaussures. Là, une parcelle de terre avait été retournée et ratissée, comme si on s'apprêtait à y planter quelque chose. Il y avait également une petite charrette en piteux état qui reposait sur ses deux longs bras. Elle contenait deux sacs en toile de jute dont dépassaient des machins verts. La femme s'agenouilla et me fit signe de l'imiter. On se fit face dans cette position. D'un doigt hésitant, elle écrivit dans la terre. Elle s'arrêta une ou deux secondes pour réfléchir avant de reprendre. Elle est belle vie. Puis, après une hésitation encore plus longue, point d'interrogation. Perplexe, je secouai la tête à mon tour. La femme se mit à quatre pattes et recommença à imiter des aboiements. Je compris tout à coup.
« Oui, dis-je, Radar a une très belle vie, mais elle est vieille maintenant, comme je vous le disais, elle ne va pas très bien. »
C'est alors que tout me rattrapa. Pas juste Radar et M. Bodich, tout le reste aussi. Ce cadeau, qui était en réalité un fardeau que je devais porter. Les cafards en décomposition. La maison du 1 Sycamore Street vandalisée, sans doute par l'homme qui avait assassiné M. Heinrich. La pure folie que représentait ma présence ici, agenouillée dans la terre avec une femme presque dépourvue de visage qui collectionnait les chaussures et les suspendait sur des cordes à linge. Mais surtout, c'était à cause de Radar. Je voyais combien elle avait du mal à se lever le matin ou après une sieste, et quand elle ne finissait pas sa gamelle, elle me regardait avec l'air de dire « Je sais que je devrais tout manger, mais je ne peux pas. » Et je fondis en larmes. La femme aux chaussures passa son bras autour de mes épaules et me serra contre elle.
« Ah ouais !»
dit-elle. Au prix d'un effort, elle parvint à articuler le mot entier.
« Ok. »
Je l'étreignis à mon tour. Elle dégageait une odeur légère et agréable. L'odeur des coquelicots. Je pleurais secoué de gros sanglots et elle me serrait contre elle en me tapotant le dos. Quand je m'écartais d'elle, je vis qu'elle ne pleurait pas. Peut-être en était-elle incapable, mais sa bouche en croissant de lune pointait vers le bas de son visage. J'essuyais mes larmes avec ma manche et lui demandais si c'était M. Bodich qui lui avait appris à écrire ou si elle savait déjà avant. Elle approcha son pouce de ses deux premiers doigts qui étaient comme soudés. « Il vous a appris un petit peu ?» Elle acquiesça et écrivit sa réponse dans la terre. « Ami. » Et c'était mon ami à moi aussi. Il est décédé. Elle pencha la tête sur le côté. Des mèches de cheveux filasses et emmêlées basculèrent sur son épaule. Mort. Elle plaqua ses mains sur les fentes de ses yeux. Jamais je n'avais vu expression de chagrin aussi pure. Et elle m'étreignit de nouveau. Quand elle me lâcha, elle montra les chaussures suspendues à la corde à linge la plus proche et secoua la tête. « Non, confirmai-je, il n'a plus besoin de chaussures. » Elle fit un geste en direction de sa bouche en mâchonnant, ce qui n'était pas très beau à voir, et elle montra le cottage. « Si vous me demandez si je veux manger, je vous remercie, mais je n'ai pas le temps. Je dois repartir. Une autre fois, peut-être. Bientôt. Et j'amènerai Radar, si je peux. Avant de mourir, M. Boditch m'a dit qu'il existait un moyen de la faire rajeunir. Je sais que ça semble complètement dingue, mais il affirmait que ça avait marché pour lui. Il s'agit d'un grand cadran solaire, là-bas. » Je pointai le doigt vers la ville. Les fentes de ses yeux s'élargirent un peu et sa bouche forma presque un O. Quand elle plaqua ses mains sur ses joues grises, elle ressembla à ce fameux tableau montrant une femme en train de hurler. Elle effaça ce qu'elle avait tracé dans la terre retournée. Cette fois, elle écrivit plus vite, et c'était sans doute un mot qu'elle utilisait souvent car il n'y avait pas de faute. Danger. Je sais. Je serai prudent. Elle posa ses deux doigts soudés sur sa bouche à moitié effacée dans un geste qui voulait dire « Chut !» Oui, il ne faut pas faire de bruit là-bas. Ça aussi, il me l'a dit. Comment vous vous appelez, madame ? Vous pouvez me dire votre nom ? Elle secoua la tête d'un air agacé et montra sa bouche. « Vous avez du mal à vous exprimer. » Elle opina et écrivit dans la terre « Diri ». Elle regarda ce qu'elle avait écrit, secoua la tête, effaça ce mot et essaya de nouveau. Dora. Je lui demandai si Diri était son surnom. J'essayais du moins, car le mot « surnom » refusait de sortir de ma bouche. Ce n'était pas comme si je l'avais oublié, simplement, je n'arrivais pas à le prononcer. Je renonçais et demandais « Diri, c'est le petit nom affectueux que vous donnait M. Boditch ?» Elle hocha la tête, se leva et frotta ses mains pour enlever la terre. Je me levai à mon tour. « J'ai été ravi de vous rencontrer, Dora. » Je ne la connaissais pas assez bien pour l'appeler Diri, mais je comprenais pourquoi M. Boditch lui avait donné ce petit nom. Elle avait un cœur bon. Elle tapota ma poitrine, puis la sienne, pour montrer qu'on était amis, je suppose. Le croissant de lune de sa bouche se retroussa et elle sautilla avec ses chaussures rouges comme devait sautiller Radar, devinai-je, avant que ses articulations la fassent tant souffrir. « Oui, je l'amènerai si je peux, si elle en est capable, et je l'emmènerai au cadran solaire si je peux. » Mais je ne voyais pas comment. Elle me montra du doigt, puis tapota l'air délicatement comme un coussin paume vers le sol. Sans en être certain, je pensais qu'elle voulait me dire « Sois prudent. Promis. Merci pour votre gentillesse, Dora. » Je me retournai pour regagner le chemin, mais elle me retint par mon t-shirt et m'entraîna vers l'arrière de sa maisonnette. « Je ne peux vraiment pas. » Elle hocha la tête pour dire qu'elle comprenait que je ne pouvais pas rester pour le déjeuner et pourtant elle continuait à m'entraîner. Quand on arriva devant la porte de derrière, elle tendit le doigt vers le linteau, inaccessible pour elle. Quelqu'un y avait gravé une inscription. Les initiales de M. Boditch. AB. Ses premières initiales. Une idée me vint alors, née de mon incapacité à prononcer le mot « surnom ». Je montrai les initiales et dis « C'est... » L'expression familière la plus idiote que je pouvais trouver s'imposa à moi, mais c'était un très bon test. « C'est génial !» Impossible de la prononcer. Elle refusait de sortir de ma bouche. Dora me regardait. « Incroyable !» dis-je. « C'est incroyable !» 10. Je gravis la colline, me faufilai entre les branches de lierre et empruntai le passage en sens inverse. La sensation de vertige, d'irréalité, me saisit, puis se dissipa. Les chauves-souris bruissaient au-dessus de ma tête, mais j'étais trop préoccupé par ce que je venais de vivre pour y prêter attention. Et comme un idiot, j'allumais ma lampe pour voir quelle distance il me restait à parcourir. Seules deux ou trois chauves-souris s'envolèrent, heureusement, et je les vis nettement dans la lumière. Elles étaient très grosses, en effet. Énormes. Je continuai à avancer dans l'obscurité complète, une main tendue devant moi, afin de les repousser si elles volaient dans ma direction, ce qui n'arriva pas. S'il y avait des cafards géants, je ne les entendis pas. Je n'avais pas réussi à prononcer le mot « surnom ». Je n'avais pas réussi à dire « c'est génial ». Pourrais-je dire « mytho » ou « mandal » ou « ça roule bro » ? Sans doute que non. Et je croyais deviner, sans en être absolument certain, la cause de cette incapacité. J'avais cru tout d'abord que Dora me comprenait, car elle comprenait l'anglais. Mais si, en réalité, elle me comprenait car je parlais sa langue. Une langue dans laquelle des mots tels que « surnom » ou « génial » n'existaient pas. Lorsque les pavés cédèrent la place à la terre battue, j'estimais que je pouvais rallumer ma lampe sans risque, mais je pris soin de la braquer sur le sol. Il y avait 400 mètres entre le dernier pavé et l'escalier. Monsieur Bodich affirmait avoir mesuré cette distance. Cette fois, je ne perdis pas le compte et je venais d'atteindre 550 lorsque j'avisai les premières marches. Tout là-haut, à l'entrée du puits, j'apercevais la lumière des deux lampes à batterie. Je montais avec plus d'assurance que lors de la descente, gardant mon épaule droite collée contre le mur cependant. J'émergeais du puits sans incident. Et alors que j'étais penché en avant pour faire glisser la seconde planche au-dessus de l'ouverture, quelque chose de rond et de très dur appuya contre ma nuque. Je me pétrifiais. « C'est ça, reste bien tranquille et il n'y aura pas de problème. Je te dirai quand tu peux bouger. » Il était facile d'imaginer cette voix demandant d'une voix chantante « Qu'est-ce que tu me donnes si je trempe ta paille dans l'or ?»« J'ai pas envie de te buter, petit. » Et je le ferai pas si je repars avec ce que je suis venu chercher. » Et il ajouta, non pas comme un rire, mais comme des mots dans un livre. Ha ha!